Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia.
Donc j'ai travaillé à partir du livre de Christian de Chergé, L'invincible espérance, qui, comme son nom l'indique, comporte de l'espérance. Mais je vous avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans son espérance, je dirais. Donc c'est un des... Christian de Chergé a été donc assassiné en 1996 avec six autres frères de sa communauté. Et donc c'est des textes, c'est pas lui qui a écrit le bouquin, mais ça a été repris par... comment il s'appelle, de la Croix, là. Donc, il était à la Croix. Bruno Chenu, qui a regroupé certains de ses textes, de ses homélies, etc., qu'il a rassemblé dans cet ouvrage-là. Donc, je vous ferai passer, je n'ai pas fait de photocopie, mais vous aurez le texte. Donc, c'est effectivement le thème de l'espérance qui traverse l'ensemble des textes retenus pour cet ouvrage. Donc, Christian Chergé veut appartenir, comme il le dit, à un tiers-monde inédit, celui de l'espérance. Bon, faut savoir qu'il vivait quand même dans un contexte difficile, devant la menace, mais en solidarité aussi avec le peuple algérien, parce qu'on parle beaucoup des moines et tout ça qui ont été assassinés, mais il y a eu énormément aussi d'Algériens qui ont laissé leur vie. Donc il récuse toute recherche du martyr pour se définir comme obscur témoin d'une espérance. Alors sur quoi porte cette espérance? Sur la rencontre du croyant musulman. Il dit « L'espérance est le pain qui nourrit la marche commune vers l'au-delà de la différence visible, vers la communion ultime de la terre promise. » Et la question lancinante qui l'habite est celle de l'existence de l'islam, de son sens dans le dessein mystérieux de Dieu, de la présence de l'Église à cet autre monde spirituel. Donc il veut se mettre à l'école de l'autre, vivre sur une émulation mutuelle, une conversion réciproque. Alors, il est plus facile de comprendre l'autre si nous avons un minimum de connaissances sur lui. Aussi, dans un premier temps, nous verrons ce que dit le Coran de la miséricorde de Dieu. Et ensuite, nous regarderons quelques extraits de l'encyclique de Jean-Paul II, Dives in Misericordia, donc sur la miséricorde. Puis, pour finir, on verra sur quel chemin peuvent avancer ensemble chrétiens et musulmans et donc ceux qui fondent cette invincible espérance. Alors, ce que dit le Coran de la miséricorde de Dieu? Alors, on trouve dans le Coran 339 emplois de la racine fondamentale, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit R-H-M, Rum, et qui se rattache à la notion de miséricorde. Et donc, cette racine, elle peut se traduire par pitié, compassion. Et ça a à voir avec quelque chose avec l'utérus.
Comme en hébreu.
Voilà, de la mère. Hein. Donc, par extension, les liens de parenté. Donc, je vous mettrai le détail, tout ça. Mais il y a quelque chose à la fois de l'amour maternel, du lien profond et originaire, et même de l'unité qui lie la mère à l'enfant. Et de cette unité naît un rapport très particulier avec lui, un amour tout spécial. Donc il compare aussi dans le Coran cet amour de Dieu à cet amour qui naît des entrailles de la mère. Donc cette miséricorde, cet amour, il s'exerce dès avant la naissance. Donc chaque fois je mets des citations du Coran, hein. C'est lui qui vous façonne dans le sein de vos mères comme il le veut. Cette préscience divine s'exprime autour de la naissance de Marie, puisqu'on retrouve la présence de Marie aussi dans le Coran, hein, Marie, mère de Jésus. Donc, il dit dans le Coran, la femme de Imram dit, Mon Seigneur, je te consacre ce qui est dans mon sein. Accepte-le de ma part. Tu es en vérité celui qui entend et qui sait. Donc, nommer Dieu fait entrer l'homme dans une relation tout à fait unique et existentielle avec celui qui seul peut révéler son nom. Donc, dans le Coran, on trouve « dit invoquer Dieu, Allah », ou bien « invoquer le miséricordieux ». Quel que soit le nom sous lequel vous l'invoquerez, les plus beaux noms lui appartiennent. Alors, on voit aussi dans la révélation coranique que la miséricorde est le sceau de l'alliance de Dieu avec sa création. Donc, il dit « si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. » Donc le premier de ces bienfaits, c'est la vie communiquée, le souffle divin. Donc dans le Coran, considère les traces de la miséricorde de Dieu et comment il fait vivre la terre après sa mort. Tel est en vérité celui qui rend la vie aux morts. Donc on voit que quand il s'épanche en l'homme, ce souffle de vie porte en lui comme en germe les qualités mêmes de Dieu. Ainsi la douceur accordée au prophète. Tu as été doux à leur égard par une miséricorde de Dieu. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Donc dans l'islam, l'intelligence n'est en l'homme que pour lui apprendre à reconnaître tout autour de lui cette trame de miséricorde qui sous-entend le décor de son existence. Donc dans le Coran, parmi ces signes, il déchaîne les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter quelque chose de sa miséricorde. Peut-être serez-vous reconnaissant. C'est lui qui fait tomber l'ondée lorsque les hommes sont désespérés. Il étend sa miséricorde, il est le maître digne de louange. Le rythme des jours et des saisons est aussi un signe de miséricorde, propre à faire goûter à l'homme quelque chose de la paix et de la lumière qui sont en Dieu. Une citation du Coran. « Dans sa miséricorde, il a disposé pour vous la nuit pour que vous vous reposiez et le jour pour que vous recherchiez ses bienfaits. Peut-être serez-vous reconnaissant. » Donc on voit cette idée de reconnaissance, de retour de l'homme vers Dieu. Toutes les créatures ne subsistent qu'en dépendance de cette miséricorde permanente. Donc il dit dans le Coran, n'observe-t-il pas les oiseaux qui déploient et relient leurs ailes au-dessus d'eux? Seul le miséricordieux les soutient. Il voit parfaitement toutes choses. Donc on voit que c'est à des hommes bien concrets que Dieu va manifester une miséricorde toute personnelle, des envoyés, des prophètes. La Torah, l'Évangile, le Coran sont à recevoir comme un rappel et une direction, surtout comme une miséricorde, selon une expression qui revient très souvent. Après avoir anéanti les premières générations, nous avons donné le livre à Moïse, comme un appel à la clairvoyance adressée aux hommes, une direction et une miséricorde. Peut-être réfléchiront-ils. Puis vint Jésus, pour confirmer ce qui était avant lui, nous lui avons donné l'Évangile, où se trouve une direction et une lumière, pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah, une direction et un avertissement pour ceux qui craignent Dieu. Enfin, le Coran se présente puisé directement à la même source. Nous avons fait descendre le livre sur toi comme un éclaircissement de toutes choses, une direction et une miséricorde et une bonne nouvelle pour ceux qui sont soumis. D'une façon générale, tous ces envoyés bénéficient d'une grâce particulière de fidélité et de sincérité découlant du pacte de miséricorde accordé à la foi d'Abraham. Nous leur avons accordé notre miséricorde, nous leur avons octroyé une langue sublime de vérité. Donc l'obéissance à l'envoyé de Dieu qui se présente avec le Coran pour tout ratifier est un authentique chemin de miséricorde. Ô vous les croyants, craignez Dieu, croyez en son prophète pour que Dieu vous donne une double part de sa miséricorde, qu'il vous accorde une lumière dans laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne. Et il y a cette notion aussi qu'un homme peut être lui-même une miséricorde pour ses semblables. Ainsi Aaron pour Moïse. Et c'est ainsi que se présente le prophète Mohammed pour les croyants de l'islam et aussi pour tout un peuple sans autre frontière que l'adoration d'un Dieu unique. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes, dit « Il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis ?» On voit que dans les citations du Coran, il y a souvent une interpellation comme ça. « Êtes-vous soumis ? Réfléchissez. Peut-être réfléchirez-vous. Peut-être changerez-vous. » Donc cette vocation signifiante d'une mission universelle reposait déjà sur Jésus, et Marie en accueille la promesse claire et irrévocable. Donc il est dit de Jésus, « Nous ferons de lui un signe pour les hommes, une miséricorde venue de nous. Le décret est irrévocable. » Et beaucoup de musulmans font une lecture exigeante pour les chrétiens du verset coranique décrivant les vrais disciples de Jésus. Donc ce verset dit, « Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, l'Évangile. Nous avons établi dans le cœur de ceux qui le suivent la mansuétude, la compassion et la vie monastique qu'ils ont instaurée. Nous ne la leur avions pas prescrite, uniquement poussée par la recherche de la satisfaction de Dieu. » Parce qu'il y a, chez les musulmans, il n'y a pas l'équivalent de la vie monastique qu'on retrouve chez les chrétiens. Donc cet appel à faire œuvre de miséricorde trouve dans le mariage un champ d'application directement voulu par Dieu. Il a créé pour vous, tiré de vous, des épouses, afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et a établi l'amour et la bonté envers vous. Donc c'est à tous les croyants qu'incombe le devoir d'être bon et compatissant envers eux, en commençant par leurs propres parents. Donc si Dieu se présente comme le plus miséricordieux des miséricordieux ou le meilleur des miséricordieux, c'est bien parce qu'il a donné à l'homme en le créant, ce pouvoir inouï de lui ressembler en pardonnant et en aimant. Donc une sourate du Coran qui dit « Oui, le miséricordieux accordera son amour à ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes. » Et on trouve dans le Coran certaines paraboles qui peuvent nous faire penser à certaines paraboles d'évangile, en particulier celle des vierges folles. « Le jour où les hommes et les femmes hypocrites diront aux croyants « Attendez-nous !» afin que nous prenions votre lumière, on leur dira, repartez chercher de la lumière. Puis vient le jugement, une forte muraille percée d'une porte sera dressée entre eux. À l'intérieur se trouve la miséricorde. L'appel à la miséricorde de Dieu s'exprime dans la prière. C'est l'appel du quotidien, dans la prière rituelle 5 fois par jour. « Mon Dieu, pardonne-moi, aie pitié de moi. » C'est l'espoir du pèlerin à la Mecque. « Je viens à toi, espérant en ta miséricorde, me plaignant de la dureté de mon cœur, l'âme oppressée. Ô très miséricordieux, Fais-nous goûter la fraîcheur de ta clémence et la douceur de ton pardon. Donc le Coran cite souvent la prière de grandes figures de l'Ancien Testament qui ont frappé inlassablement à la seule porte contre laquelle ils pouvaient encore rester debout et libres malgré tout. C'est déjà la prière d'Adam et de son épouse. Ils dirent « Notre Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons au nombre des perdants. » C'est aussi la prière de Moïse. « Mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère. Fais-nous entrer dans ta miséricorde. Tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. » Donc c'est la prière de tous les hommes pécheurs, celle du lecteur du Coran, qui n'est pas fier de ses œuvres à l'heure de la prière rituelle. « Seigneur, je suis le plus petit grain de sable que féconde la pluie de tes bienfaits. Je ne mérite pas que tu discernes un jour mes bonnes actions. Je me suis trop souvent contenté de m'en remettre à ton indulgence, à ta miséricorde. » Donc quand on va puiser à ce trésor, il faut y venir avec ses proches, avec tout autrui, ses parents, les défunts, pour qui la miséricorde de Dieu est implorée. Cette intercession est elle-même une œuvre de miséricorde. Ce cri se prolonge à la face du Tout-Puissant, relayé par ceux qui portent le trône, tous les élus de la louange éternelle qui restent en solidarité universelle. Donc cette prière, « Notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en ta miséricorde et en ta science. Pardonne à ceux qui reviennent vers toi, à ceux qui suivent ton chemin. » Mais cette prière ne suffit pas, car il faut aussi puiser dans la miséricorde la force d'entretenir sa foi et d'en accomplir les œuvres. La béatitude des miséricordieux et celle des artisans de paix se rejoignent dans un très beau verset. Voici quels sont les serviteurs du miséricordieux, ceux qui marchent humblement sur la terre et qui disent « paix » aux ignorants qui s'adressent à eux, ceux qui passent la nuit devant le Seigneur, prosternés ou debout. La miséricorde de Dieu est universelle, car elle émane directement de l'unité qui est en Dieu et donc de cette volonté une de Dieu qui ne peut être que d'unir. Parce que Dieu est l'unique. Dieu se prescrit à lui-même la miséricorde. Il vous rassemblera sûrement au jour de la résurrection. Nul ne peut douter de sa venue, de la venue de ce jour. Les incrédules sont ceux qui se perdent eux-mêmes. La miséricorde apparaît alors tout naturellement comme le principe et le garant de l'unité entre les hommes. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait rassemblé tous les hommes en une seule communauté. Mais ils ne cessent pas de se dresser les uns contre les autres, à l'exception de ceux auxquels ton Seigneur a fait miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés. La loi du talion, reprise dans le Coran, n'échappe pas pour autant à la miséricorde. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, nous leur avons prescrit dans la Torah. Les blessures tombent sous la loi du talion. Mais celui qui abandonnera généreusement son droit obtiendra l'expiation de ses fautes. Donc on voit que le pardon des ennemis est aussi demandé par la loi coranique. Dieu établira peut-être l'amitié entre vous et ceux d'entre eux que vous considérez comme des ennemis. Dieu est tout-puissant, il est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Alors si le Coran parle souvent de châtiment, c'est toujours à l'adresse des idolâtres, des polythéistes, comme des croyants qui font œuvre païenne, de tous ceux qui refusent positivement de dépendre de Dieu dans leur volonté d'exister. Et la mort, c'est cela, aussi vrai que meurt le canal qui se détourne de sa source. Et donc le Coran dit, parcourez la terre et considérez comme il donne un commencement à la création. Dieu la fera ensuite renaître de la dernière naissance. Ceux qui sont incrédules à l'égard des signes de Dieu et de sa rencontre, voilà ceux qui désespèrent de ma miséricorde. Voilà ceux qui subiront un châtiment douloureux. Car Dieu peut tout pardonner, sauf l'idolâtrie et le polythéisme. Et c'est là le péché contre l'esprit. La miséricorde de Dieu infinie, la miséricorde infinie de Dieu interdite aux musulmans de désespérer. Donc il est dit, « Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés, il est le miséricordieux. » La miséricorde qui détourne tout homme du désespoir est pour le croyant le meilleur sauf-conduit de son espérance. Toute miséricorde de Dieu ou de nos frères contient un avant-goût de cette joie d'éternité. Une citation du Coran. « Celui que tu préserves aujourd'hui des mauvaises actions bénéficie de ta miséricorde. Voilà le bonheur sans limite. » Donc la miséricorde apparaît alors comme cette terre promise où le Seigneur de nos vies conduit et rassemble les élus de sa vie. Cette terre promise est en devenir comme la Jérusalem nouvelle. Elle est comme une femme qui enfante. À cette souffrance, il fallait une mère prise parmi les hommes. Marie est ainsi honorée par le Coran comme mère de miséricorde venue du Seigneur. Elle pourrait être la porte de la parabole coranique qui dit la brèche ouverte dans la muraille. À l'intérieur se trouve la miséricorde. Donc voilà le petit tour que j'ai fait par rapport à l'étude de la miséricorde, comment la miséricorde de Dieu est présentée dans le Coran. Donc après, j'ai regardé l'encyclique Dives in Misericordia de Jean-Paul II, qui invite au dialogue avec les autres religions. Et il dit, le dialogue à son tour repose sur la confiance, et la confiance présuppose non seulement la justice, mais la miséricorde. L'amour et la miséricorde permettent aux hommes de se rencontrer entre eux, dans cette valeur qu'est l'homme même, avec la dignité qui lui est propre. Donc on voit aussi, je n'ai pas repris tout le parcours de la miséricorde dans la Bible, mais que la miséricorde marque le visage de Dieu, que Dieu se donne y compris dans l'Ancien Testament. Chez saint Jean, la miséricorde se révèle avant tout comme le baiser d'amour de Dieu à l'humanité, dans le Christ. La croix est comme un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence de l'homme. Donc ça, c'est dans l'encyclique Dives in Misericordia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et Jean-Paul II dit, Dieu qui est amour ne peut se révéler autrement que comme miséricorde. Donc Jean-Paul II rappelle combien les pauvres et les pécheurs ont su reconnaître cette présence messianique que Jésus authentifiait en manifestant le Père comme amour et miséricorde. C'est surtout à l'égard de ces hommes-là que le Messie devient un signe particulièrement lisible. Il devient un signe du fait que Dieu est amour. Il devient un signe du Père. Donc à la suite de Jésus, l'homme n'a pas d'autre fonction dans l'univers que de refléter la présence miséricordieuse de son Créateur. En se donnant ainsi à l'homme, Dieu ne fait que lui révéler sa propre vocation. Soyez généreux comme votre Père est généreux. pour que le monde des hommes puisse devenir toujours plus humain, il faut à tout prix que l'homme y déverse un surcroît de miséricorde. Le chemin d'ouverture à la miséricorde passe par la conversion du cœur. Et c'est dans la prière que l'homme reconquiert sa vraie liberté d'enfant de Dieu. Seigneur, prends pitié. C'est la prière de tous les nécessiteux de la grâce dans toutes les Écritures et dans l'Église. Dieu donne son esprit d'amour à celui qui n'en finit pas de corriger sa trajectoire, poussé par le seul désir de la miséricorde. Et Jean-Paul II dit, donc dans cette encyclique, « La connaissance authentique du Dieu de la miséricorde, Dieu de l'amour bienveillant, est une force de conversion constante et inépuisable, non seulement comme acte intérieur d'un instant, mais aussi comme disposition permanente, comme état d'âme. Les œuvres de miséricorde sont, d'après saint Paul, des fruits de l'esprit, et l'esprit qui scrute tout jusqu'aux profondeurs de Dieu peut seul colporter jusqu'aux extrémités de la terre le tressaillement d'amour qui saisit Dieu aux entrailles. L'Esprit Saint, c'est la miséricorde de Dieu personnifiée dans le mystère même de l'unité qui dit Dieu. L'heure de la miséricorde accomplie est celle de l'Esprit livré. Au dernier souffle du crucifié correspond le premier souffle du vivant de Pâques. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, quelle unité possible entre ces deux visions de la miséricorde et ces deux visions de Dieu? Alors, si la foi au Dieu unique révélée à Moïse et aux prophètes peut être un chemin de communion entre chrétiens et musulmans, certaines différences majeures sur Dieu et sur la relation de l'homme à Dieu persiste. Le Dieu de l'islam est unique. Il n'y a pas de semblable, pas d'égal, pas d'origine, pas de conjoint, pas d'associé, pas d'autre divinité que lui. Donc pour le Coran, l'homme est le lieutenant de Dieu sur la terre. Tout a été créé pour lui. Les anges eux-mêmes ont été invités à se prosterner devant Adam, en raison du savoir que Dieu avait choisi de lui communiquer. Ce témoignage en faveur de l'unique est donc confié à tous les hommes, dans toutes les générations. Donc l'homme est un adorateur des voix de Dieu. Sa vocation unique est de proclamer Dieu autrement et mieux que toute créature sous le ciel. Dans la Bible, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc toute la vie de Jésus a été de faire la volonté du Père. « Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté », dans le livre des Hébreux. Donc Jésus demande au Père cette unité. Si le chrétien met résolument ses pas dans ceux du Christ, l'Esprit du Père lui donnera d'entrer librement dans l'obéissance du Fils. Donc si les deux religions tendent vers l'unité, celle-ci est un chemin. Chacun sent sa différence d'avec le modèle unique. Cette unité se dit malgré tout dans l'espérance qui sous-tend la marche commune vers l'au-delà de cette différence. Comme dit saint Paul aux Philippiens, en attendant, au point où nous en sommes, marchons dans la même direction. Et le Concile Vatican II, dans la déclaration Nostra Aetate sur la religion musulmane, précise l'attitude qui doit être celle des chrétiens. Et ce texte porte dans son préambule la certitude d'une communauté unique préexistant à toutes nos divisions et destinée à ressurgir dans la pleine lumière de la résurrection finale. Donc ce texte-là de Vatican II dit « À notre époque », donc c'était déjà quand même, c'était en 65, À notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples augmentent, l'Église examine plus attentivement quelles sont les relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes, et même entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Tous les peuples forment en effet une seule communauté, ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin dernière. Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis. Et dans le paragraphe, donc toujours dans cette Nostra Aetate, paragraphe sur la religion musulmane, sans nier les différences, propose un chemin d'humanité. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale Marie et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestés entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Donc cette émulation mutuelle devrait s'exercer au sein même de la différence reconnue et acceptée. C'est l'amour du prochain, tel qu'il est, qui contribuera le plus efficacement à l'avènement visible de cette communion en devenir. Il y faut l'humilité, qui ait besoin de l'autre, au nom de la part de vérité contenue dans ce qu'il est. Donc Christian de Chergé poursuit, entre l'avoir et le pouvoir, entre une majorité et une minorité, comme entre le pessimisme et l'optimisme, la foi nous dit, ici et là, qu'il y a place pour un tiers-monde inédit, celui de l'espérance. Et le moine peut avoir son mot à dire, et si le moine peut avoir son mot à dire, c'est moins comme constructeur efficace de la cité des hommes que comme adepte résolu d'une façon d'être au monde qui n'aurait aucun sens, en dehors de ce que nous appelons les fins dernières de l'espérance. Plus immense est l'espérance, mieux elle perçoit d'instinct qu'elle ne saurait s'accomplir qu'en s'investissant résolument dans une longue patience avec soi, avec l'autre, avec Dieu même. C'est au jour le jour qu'il lui faudra s'entretenir pour vivre. Tous ces petits gestes lui sont bons pour se dire. Un verre d'eau offert ou reçu, un morceau de pain partagé, un coup de main donné, parle plus juste qu'un manuel de théologie sur ce qu'il est possible d'être ensemble. Jésus-Christ est précisément le grand sacrement de ce tiers-monde de l'espérance. l'initiateur de la foi en l'homme et son accomplissement en Dieu, aussi bien au-delà qu'au-dedans de nous, caché aux yeux du monde, tout à la fois par la nuée du mystère divin que par le voile de l'incarnation continuée. Jésus nous a lui-même prévenus, « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père » en Matthieu 11, 27. Dieu reste de toute façon le tout autre. Et la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, honorée par les deux religions, incarne ce chemin d'espérance. L'hospitalité réciproque que les uns et les autres sont invités à vivre, c'est celle de Marie et du disciple bien-aimé au pied de la croix. Marie qui se laisse prendre à demeure, prête à courir chez le voisin pour accueillir et chanter d'âge en âge toutes les visitations de l'Esprit. Et un musulman disait « L'Esprit Saint est toujours avec celui qui prend Marie chez lui. » Je me suis arrêtée là. Alors, j'aurais pu continuer beaucoup plus, mais voilà, le temps m'a manqué. Ouais. Et je sais pas comment. Bon, je pense que c'est bien qu'on puisse réagir, parce qu'on voit quand même que c'est deux mondes, oui. deux approches très différentes, et que le croyant n'est pas du tout dans la même posture, quoi. Le croyant musulman, effectivement, il est soumis, hein, Et le croyant chrétien, il est appelé à rentrer en Dieu. C'est quand même...
Moi, ce que j'ai retenu depuis très longtemps là-dessus, sur la différence de la divinité dans les deux religions, c'est que nous pouvons, et ça conditionne la prière, nous prions dans le Christ. C'est le Christ lui-même qui nous fait rejoindre le Père. Moi, ce qui m'a toujours semblé de leur côté, c'est que c'est un cri qui monte. Mais vous, il est peut-être, je sais pas, il va peut-être atteindre la divinité, mais qui le prouve ?
Mais sans passer par Jésus.
Ouais, sans passer par Jésus. Alors moi, j'ai toujours été... toujours étonné par cette forme de prière où le musulman prie la miséricorde, effectivement, il prie, mais où va sa prière? Voilà, moi c'était toujours cette question.
Oui, puis c'est vraiment le Dieu unique, c'est pas le Dieu de Jésus, il refuse la croix.
Ça n'existe pas.
Et nous on a l'avantage de pouvoir discuter avec lui, avec Dieu. On peut échanger avec Dieu.
Avec Dieu, mais...
Il y a aussi la question de l'inspiration. Pour les musulmans, il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration. Le commandement est tombé, le livre est tombé, mais l'idée que Dieu puisse inspirer les hommes, bon, il y a des grands personnages, mais on sent bien que...
C'est un soumis.
La prière, c'est un soumis.
La prière, c'est une demande de réponse. Avant tout, elle attend la réponse. Dans le Christ, nous avons la réponse. La réponse que nous avons adressée, le Christ est venu. Et il nous apporte les questions que nous posons dans notre humanité. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va ressusciter? Etc. Est-ce qu'on va pouvoir... on a un désir profond de Dieu. Est-ce que ça va pouvoir se réaliser? C'est autant de choses qui, en fait, sont des choses humaines. Moi, je trouve, de l'autre côté, il y a une désincarnation. Il n'y a pas d'humanité, quoi.
Il y a beau avoir quand même une forme de croyance en la vie... Que la vie ne s'arrête pas après la mort.
Mais la résurrection.
La résurrection
dans l'islam.
Quelle résurrection?
Oui, c'est ça.
Quelle résurrection?
La résurrection des corps. Après.
Il y a aussi que Les musulmans sont impitoyables pour un musulman qui devient chrétien.
Oui.
Impitoyables. Pour un musulman qui devient chrétien, il est condamné à mort. C'est tout.
Oui.
Ah oui. Ça, c'est quand même...
Et aussi, il entraîne sa famille dans la cour du paradis.
Oui, mais ça, d'accord, mais...
Je me raconte une petite histoire.
Je veux dire, c'est pas marqué dans la Bible qu'il faut tuer son voisin. Bon, tandis que eux, c'est un ordre. C'est quelqu'un qui a été musulman, qui perd la foi, qui se convertit à autre chose, il faut le...
Alors, il faut aussi resituer un petit peu le contexte dans lequel est apparu l'islam. Parce que c'était quand même un contexte où les chrétiens n'étaient pas, faisaient pas forcément preuve d'unité entre eux, et il y avait beaucoup de bagarres, etc. Donc, ça n'excuse rien.
Mais enfin, il y a quand même c'était pas... le départ
quand même de cette religion, c'est une hérésie chrétienne qui est à l'origine.
C'est des moines d'Ossète, hein, c'est ça.
Comment?
C'est des moines d'Ossète, je crois, donc qui ont un peu accueilli Mohamed. D'après ce que j'ai compris, d'où viendrait le fait que pour eux, le Christ Jésus n'est pas mort sur la croix.
Non, Jésus n'est pas mort.
Il y a une substitution.
Mais ça, ce sont des hérésies.
Ça, c'est une hérésie chrétienne.
Comme ça. C'est une de ces hérésies qui sont à l'origine. Je ne sais plus comment il s'appelle celui qui a fait de très très bon travail là-dessus. Tu vois, je ne me souviens pas. Mais il nous raconte ce point de départ, quoi. Moi, je ne veux pas le dire. C'est une autre petite histoire pour moi. J'ai eu un musulman qui est venu pour l'exorcisme. Et ce n'était pas un musulman, c'était sa femme. Et alors, je ne savais pas comment faire.
Et qu'est-ce
qui s'est passé? Nous, on vit par le Christ. Quand on prie au Seigneur, écoute, fais quelque chose pour ça.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Il était d'accord que tu pries le Christ?
Qu'est-ce que tu as fait, alors?
Ben, je ne savais pas. Je savais alors ce que j'ai fait. Je me suis dit, pour pouvoir se rejoindre, parce que moi je ne pouvais pas faire l'exercice que je pouvais faire, s'il fallait simplement alors j'ai essayé de penser à l'esprit, un esprit qui pouvait correspondre à l'un et à l'autre. L'esprit sur nos cerveaux.
L'esprit saint.
Et alors lui, à un moment donné, il me voyait hésiter, il me dit, mais non, mais ça fait rien, on a la même religion. un très brave homme, oui, c'est très très brave. Ils sont venus plusieurs fois, ça n'a pas dû réussir, parce qu'ils revenaient chaque fois. mais ça m'a quand même marqué. Ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est quand même un dialogue... On ne sait pas comment le prendre. Moi, je ne sais pas. Enfin, voilà ce que je ressentis, c'est que il me manquait le Christ. Il y a des moments, il y a des événements comme ça dans la vie où ça crie qu'on a besoin du Christ. Et s'il n'est pas là, on peut rien faire.
Mais Jean-Claude, tu nous en avais parlé de ça. Il me semble que tu lui as pas demandé si tu pouvais prier le Christ. Tu lui as pas demandé la permission de prier.
Mais si, il m'a dit par le moment, j'ai dit, écoutez, moi j'avais prié.
Tu lui as expliqué.
Il m'a dit, oui, vous pouvez.
Non, mais...
on est tous des croyants. Bon, mais c'était bien.
Alors moi je vis avec un musulman depuis 7 ans. Ah. Je vis avec un musulman chez moi. Moussa.
Avec tous les musulmans, oui.
Oui, les musulmans, ils prient, ils respectent la. En fait, c'est, tu l'as dit là-dedans, en fait, c'est partager le pain, en fait, qui est...
C'est ça, mais c'est ce qui est...
On ne peut pas faire autre chose, en fait. Ouais, la conversion, c'est Dieu qui va la faire, et nous, on partage le pain. On partage la prière aussi, parce qu'il prie dans son côté pour moi, et moi, je prie pour lui. Là, après, la question théologique, c'est autre chose, mais là, on est appelé à la charité. La foi, c'est Dieu qui va faire la transformation, et c'est les exemples de vie qui vont faire la transformation. C'est pas nous qui allons transformer l'islam, hein. c'est par la grâce de Dieu qu'on pourra le faire avec les...
Non, ben, on peut
avec
pas.
Les...
Ça, on peut pas.
Non, enfin, moi, ça ne gêne pas de vivre avec un musulman. Parce qu'il a la charité, et parce qu'il est appelé par Dieu aussi au royaume de Dieu, et que je ne sais pas comment il va faire, mais il est appelé comme nous. Alors après, on ne discute pas de théologie, par contre, les icônes, il apprécie.
Ouais. Ah oui,
il tout de suite. Dès le départ, il montrait Marie, il m'a dit oui, je connais Marie. Donc voilà, il y a... Après tout le reste, c'est des histoires de politique qui ont fait qu'il y a eu l'islam qui est né. C'est des histoires de peuple, de massacres. Mais eux, ils y sont pour rien, tous ces gens-là.
Ouais,
ils sont juste appelés à parodier.
Il y avait des hérésies, on n'était pas d'accord sur le fond.
Parce que dans l'islam, il y a une interdiction de l'image.
Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que les gens ne sont pas pointus sur le dogme, ils sont pointus sur la charité. Ça n'a rien à voir.
Oui, d'accord. Oui.
C'est-à-dire, c'est pas des fondamentalistes. Ces gens-là, ils sont là pour aimer. Ils sont pas là pour écouter la parole et dire il faut exécuter la parole comme ça. C'est-à-dire, c'est fini ça maintenant. Dans notre époque, il faut arrêter ça. Maintenant, on doit vivre dans la charité.
Moi, j'ai eu des thésards qui étaient musulmans.
Oui.
Et ils me faisaient à chaque fois un grand laïus sur les cinq,
oui, ils sont en crise, là.
Les cinq piliers de l'islam.
La semaine dernière, on a eu une musulmane qui est venue témoigner, elle s'est convertie au christianisme. Elle m'a dit les jeunes en islam, ils sont en crise. Parce qu'ils n'aiment plus leur Coran.
Ah
ça
ne bon.
Les satisfait pas. C'est-à-dire, c'est à nous de monter l'exemple, non? Mettre en cause l'islam sur le Coran, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais comment faire pour dire à ces gens, venez vers le Christ? C'est pas en leur disant que c'est faux, tout est faux, ça c'est un dialogue théologique. Et c'est en vivant avec eux, c'est pour ça.
Vous connaissez là, en ce moment la mission Ismeri.
Oui, Ismeri.
Ah, c'est une très belle.
J'ai vu ça.
Ah oui, c'est.
On a reçu des choses.
C'est vous avez discuté.
Non, on a reçu des.
C'est une très belle mission qui existe pour les musulmans qui se convertissent. Et alors, il faut les accueillir. Et ils racontent, enfin, c'est des gens qui racontent, là, ils ont créé une association d'accueil de ces. De ces musulmans qui se trouvent désemparés quand ils viennent dans la foi chrétienne. Et la façon de les recevoir, c'est une grande question. Mais, donc c'est mission Ismeri. Ismeri, c'est le nom de la dans le Coran de je ne sais plus laquelle.
Moi, j'ai eu deux exemples. Ce soir-là, c'est une dame qui a été convertie à Paris. En fait, son père voulait la tuer parce qu'il a su qu'il y avait un coup de marteau sur la tête. Ils sont violents. Elle a senti son âme partir, elle est revenue, après elle a fui la maison. Et maintenant, elle témoigne dans la rue, elle n'a pas peur. Elle n'a plus peur de rien. Et ça, c'est sa façon-là. Elle a dit, moi, on peut me frapper. Mais en fait, elle a fait beaucoup de conversions chez les musulmans. Beaucoup dans la rue, dans les gares. Et puis, l'autre façon de convertir... Il y avait une dame à l'autre qui priait depuis 20 ans pour la conversion de l'islam. Et puis, au bout de 20 ans, elle a dit, j'en ai marre, je n'ai pas de résultat, j'arrête de prier. La semaine dernière, il y a un musulman qui s'est converti, qui habite fois en Tunisien. Ils sont allés là-bas avec 60 personnes, ils sont atterrés chez elle. La semaine d'après. Ça veut dire que sa prière a porté.
Ouais.
En fait, ce sont les deux façons de convertir. C'est par la foi, la prière. Ou le témoignage très violent.
Mais ils le payent cher, ceux qui se convertissent.
Oui. Ah, le témoignage dans la rue, c'est très violent. Par contre, elle fait des conversions extraordinaires. Elle a fait des conversions extraordinaires de musulmans.
Il y a aussi des musulmans que le Christ visite.
Ah oui.
Il les visite, et après, ils deviennent chrétiens. Mais c'est le Christ qui prend l'initiative.
De toute façon, le Seigneur les aime, quel que soit
lui. Oui, mais ça pourquoi certains, pas plus que d'autres.
Moussa, il est arrivé à...
Chez les musulmans, chez les catholiques,
oui, c'est vrai, dans toutes les
religions,
c'est
la même chose.
Oui, mais le témoignage quand même de musulmans qui deviennent chrétiens, il y a deux ou trois bouquins là-dessus, et c'est des gens qui perdent leur
médecin. Ah oui, bien sûr.
Leur travail, etc.
Ils sont poursuivis. Chez moi, s'ils se convertissent, ils ne pourront plus retourner chez lui, ça c'est sûr. Il est arrivé à Foix le 11 février, Notre-Dame de Lourdes, et le 4 ans pour avoir les papiers, le jour qu'il a eu ses papiers, j'avais programmé un voyage à Lourdes. Donc il y a un rapport avec la Vierge Marie et Bernadette et sa mère, parce qu'il avait perdu sa mère un an avant. Je veux dire, il y a toute une combinaison du ciel dans tout ça, quoi. Par contre, lui, s'il se convertit, il ne pourra plus aller au Mali. C'est pas possible. Ou alors, il faut qu'il le cache. Ça va être très difficile.
C'est, bon, c'est une mort sociale. Mais il faut savoir que dans le Coran, si tu te convertis, toute ta famille est exclue du paradis. Donc, quand il tue un converti, c'est parce qu'il se protège. Parce que c'est voilà.
Ce qu'elle disait, c'est qu'ils ont créé une identité mondiale, en fait. C'est ça le problème de l'islam. Ils ont créé une identité mondiale du musulman.
Et l'Oumma.
Voilà. C'est ça qui pose problème, en fait.
Bah, c'est-à-dire que toutes les religions, enfin, c'est pas des religions, mais par exemple, les bouddhistes, ils ont la même structure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pape, ils n'ont rien du tout, mais ça. Ils sont dans un refuge, ils prennent refuge. L'acte de foi, c'est de prendre refuge. Et ils font partie d'une communauté. Alors après, chacun sa manière de la vivre. Les bouddhistes ne vivent pas pareil que les musulmans.
Oui.
Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'était votre relation avec Moussa. De l'extérieur, je peux dire le Christ est présent. Je le dis. Moi, ce que je l'ai senti. Ben voilà. Et là où est la charité, là est le Christ.
Oui, oui.
Voilà, c'est un mystère, ça.
Bien sûr, c'est un mystère. Oui.
Ben oui.
Non, mais je veux dire,
l'important, c'est peut-être
d'arriver... La théologie, il est pratiquement... Il faut des fois des pontes pour parler de la théologie en tout cas. Oui. C'est très difficile.